Vous écoutez
RMC.
RMC.
Aïe, 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 oui, oui. J'ai parlé français.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno. Ben Vindo.
Ça va bien, tout va. Bonjour, la maison. Parti.
Jusqu'à minuit.
C'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Jérôme Roten est là, Frédéric Piquion est là. On va parler du dribble pendant une heure, les gars, dans quelques instants. En fait, ensuite, il y aura l'Allemagne.
Lui, c'est Gilbert.
Ensuite, il y aura l'Allemagne. Ensuite, il y aura l'Angleterre. Fred, moi, je te soutiens.
Non, mais t'inquiète pas, ils sont là parce qu'ils sont deux contre un. Mais bon, t'inquiète.
C'est marrant.
Ça, c'est clair.
Parfois, tu crois pas qu'on te chambre exprès quand même.
Comment ça, tu me chambres? Mais chambrer, c'est exprès.
Ah, Daniel. Tu sais ce qu'il y a dans la playlist de Fred?
Non.
Écoute bien.
Pourquoi tu lui mets l'hymne italien?
Mais ils sont fous, ces deux malades.
Mais dans la playlist de Fred,
j'ai compris en fait ce soir, c'est un bizutage.
Mais pas du tout.
C'est un bizutage ce soir. T'étais déjà venu, non?
Non, avec vous, non. Pas tous les.
Il n'y avait pas les deux.
Il y avait Daniel une fois.
Peut-être.
On est content.
Mais Jérôme, c'est vrai que c'est la première fois.
Jérôme Thomas me signale qu'il se souvient quand on était dans la voiture l'autre jour, il y avait aussi ça dans ta playlist, il me dit.
Ouais, c'est normal.
C'est normal que ce soit dans ta playlist.
Dans la grande musique.
C'est dans la playlist de tout le monde, ça.
Ah, ça, oui.
C'est même dans la playlist de Jérôme.
Franchement, oui.
Bah voilà. Messieurs, un petit tour au basket avant de parler des dribbleurs.
Encore
Jérémy Donzé, le score. Non, mais il reste quelques secondes à jouer dans le troisième quart-temps. Jérémy, Asvel à Valence.
Ouais, c'était toujours pas fini dans cette rencontre. Il reste 1 minute 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. 7 points d'avance. Attention, Valence qui recolle un petit peu au score. Asvel un petit peu plus en difficulté. Manque de précision, manque d'adresse ces dernières minutes pour les joueurs de Zvezda Dmitrovic qui vont devoir se reprendre pour espérer conserver leur avance et décrocher peut-être leur 10e victoire cette saison dans cette compétition. 55-48. 1 minute 10 à jouer dans ce troisième quart-temps.
Alors, tiens, je reçois un message de Hotman qui me dit qu'il faut arrêter de mettre Jérôme et Daniel dans la même émission, ils sont complètement tarés. Moi, non, c'est assez mesuré.
Vous êtes d'où ?
Bah, on n'a rien fait, là.
Il serait triste, hein, ça.
Nicolas Lansalo nous rejoint. Nicolas, bonsoir.
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 Alors, tu es là parce que sur RMC Sport 1, dans quelques jours, c'est quand d'ailleurs ?
Le 26 mars.
Voilà, c'est pas tout de suite.
Dans Transversal.
On a un petit peu de temps.
Là où tu brilles, Niki.
Dans l'émission Transversal, donc sera diffusé un documentaire spécifique consacré aux dribbleurs.
Ouais, c'est ça.
Alors, explique le.
Qu'est-ce que le dribble déjà ?
Je vais tout vous dire. Ça part d'une idée très simple, c'était de faire un doc sur le dribble. C'est aussi bête que ça, ça n'avait pas spécialement été fait. Donc on s'est dit, on va remonter aux origines du dribble.
Vous hésitez entre le tacle et le dribble, et vous avez dit, on fait plutôt le dribble que le tacle.
Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que j'en parlais il y a 5 minutes avec Nicolas Villas en rédac. Qui lui me disait qu'il aurait préféré un doc sur le tacle et les tacleurs. Donc, parce que c'est un gros.
Ah bah ouais, on aurait mis du Dimeco, du Cyril Roll.
Peut-être qu'on fera les tacleurs la saison prochaine.
C'était pas le plus gros tacleur, hein, Cyril Roll. Hein. Même s'il a mis des tacles dangereux, mais c'était pas lui. Hein. Dans le championnat de France.
Faites-moi votre. Rapide, excuse-moi, Nicolas. Non, faites-moi votre podium des tacleurs, là.
Mais bah, des tacleurs propres ou des bouchers. C'est ça, tu veux savoir quoi?
Moi, je te donne juste un.
Vas-y.
Blaise Kouassi.
Ah, je n'aurais pas dit en premier, lui. Ah, lui, bah, un vrai boucher.
Quoi? Entre Guingamp et Troyes, je crois qu'il a pas joué. Il a dû faire 10 matchs dans chaque saison. Bah, Jérôme, tu connais, non?
Ouais.
Ma foi.
Je sais pas.
Bah, ouais.
Bon, bah, en tout cas, je prends des notes pour la saison prochaine pour les tacleurs.
T'embrasse.
Donc c'est un doc sur les dribbleurs, ça s'intitule Dribbleur, on en a rencontré quasiment une cinquantaine, la grosse force du...
Et puis des sacrés noms hein, quand même,
ouais,
il y a du
monde.
La grosse
force du doc, ça va être le casting, puisque bah, j'ai eu la chance d'aller voir Ronaldinho, qui nous a parlé pendant plus d'une demi-heure, j'ai eu la chance d'aller voir Dimitri Payet, qui se fait rare et qui nous a dit plein de bonnes choses aussi. Pour tout te dire, tu vois, je me suis même fait une petite liste, parce que j'en oublie quand on me demande qui est dans le doc. Mm-hmm. Donc on a aussi des grands anciens, Rivellino, Zico, et puis... Les joueurs actuels, Riyad Mahrez, Dele Alli, Berbatov.
Dele Alli, dribbleur.
Les petits ponts. Dele Alli, son grand kiff, c'est les petits ponts.
Ah, penser dribble alors.
Alors maintenant, ah bah, très bien.
Ouais,
maintenant,
définis son truc.
Comment est-ce que vous avez déterminé cette liste? Parce que, comme le dit Fred, des fois tu vois des noms, tu te dis, attends, mais pourquoi ils l'ont pris lui alors que moi j'aurais plutôt pensé à lui? Enfin, tu vois, bon.
Ouais, ben, vous réagissez. Enfin, ça fait vachement réagir dès que je donne des noms. C'est qui est bien aussi. Oui. Par exemple, on a fait Van Persie. Alors, parfois, je te cache pas qu'il y a aussi des questions d'opportunité. On a eu la chance via la Première Ligue d'aller voir Robin Van Persie, on n'a pas dit non. Et en étudiant son profil technique, tout le monde m'a dit mais Van Persie c'est pas un dribbleur. Ben si, c'était un neuf qui était assez technique et qui avait ses petits skills à lui, comme on dit. Donc comment on a défini cette liste? Bon, on a fait des grandes priorités. Évidemment, il y avait tout en haut de la liste Ronaldinho. Alors, il y avait JJ Okocha, que j'ai eu 5 secondes au téléphone, qui m'a dit rappelez-moi cet après-midi, et il a plus jamais répondu.
Il t'a dribblé, quoi, en fait.
Il m'a dribblé. Ah, ouais, pareil pour Atem, Ben Arfa. J'ai beaucoup discuté avec ses représentants. J'ai tout donné pour l'avoir, mais il se fait désirer.
Avec ses représentants, avec Michel.
Avec Michel.
Oui, bah oui. Ouais. Donc, c'est pas ses représentants.
Ouais,
c'est
pas, en même temps, il a le temps à valider.
Michel,
il aurait pu. Hein.
Michel a été très sympa et très séduit par le projet, mais je crois qu'Atem est pas séduit par l'idée, on va dire. Donc voilà, on a fait une liste.
Et qu'est-ce que vous vouliez hein? En fait, l'idée, c'était le dribble avec un rapport historique à pourquoi cette phase de jeu est apparue, parce qu'il y a une partie historique dans le doc aussi.
Ouais.
Parce que c'est quelque chose qui quand c'est venu dans le foot, c'était nouveau par rapport au style un peu primitif qui se pratiquait au début, à savoir un jeu beaucoup axé sur les duels avec des longs ballons devant.
Alors il y aura une partie historique qui ne sera pas spécialement très développée, mais évidemment on va revenir aux racines du dribble. On va aussi parler des premiers dribbleurs. On va beaucoup parler de Garrincha notamment,
voilà.
Stanley Matthews. Donc on va revenir sur l'histoire du dribble.
À quel moment il est apparu le dribble? Tu sais ça?
Franchement c'est compliqué à dire. C'est pas daté très précisément.
On peut estimer que c'est là dès le début du foot. Ou pas trop?
Je t'avoue que tu me colles un peu.
Comme je disais tout à l'heure, à la base, le foot, en tout cas, quand il est pratiqué, c'est pour ça qu'il y en avait très peu chez les Anglais, les dribbleurs. Il y avait une sorte. Le dribble est apparu comme en fait la riposte du pauvre au riche, qui a accès beaucoup sur le physique et sur le jeu à l'anglaise. On balance le ballon. C'est comme a priori, après évidemment, il y a toujours des exceptions, le dribble ne faisait pas partie de la culture des Anglo-Saxons.
Non mais alors, je vais aller plus loin,
on
Daniel.
Accède plus sur
tu as oublié le bouquin de notre ami Olivier
Guez. J'allais le citer à la fin de la phrase là, l'éloge de l'esquive évidemment, puisqu'on en avait parlé bien sûr. Et c'était ça, la base du foot basée un peu sur le côté baston, chevalier, on balance devant, on y va, l'épaule. Hein, et la réponse du petit, moins en forme, moins costaud, qui mangeait moins de viande et qui trouve une autre solution, c'était le dribble, et c'est plus venu des pauvres,
oui,
le dribble.
Il y avait même une dimension raciale, c'est la théorie
d'Olivier.
Absolument, en fait, c'était les descendants d'esclaves qui, lors des matchs où ils étaient opposés aux Blancs, pour ne pas se faire engueuler après, éviter les contacts, tout simplement, pour pas se faire tenser et après. Donc, si c'est comme ça qu'ils ont développé cet éloge de l'esquive, comme ils l'appellent. Après, c'est une théorie qui est pas forcément corroborée par les gens auxquels on a parlé. Tu vois, on a parlé à Zico, à Rivelino, donc à des grands dribbleurs brésiliens qui sont pas des penseurs, mais qui sont des acteurs du jeu, qui connaissent très bien le foot brésilien, un grand journaliste brésilien aussi. Et eux sont pas trop d'accord avec cette théorie. Mais on fera vivre le débat.
Je sais pas avec quoi ils sont pas d'accord, mais c'était plus un truc latin. Et c'était plus un truc fait par des gens qui avaient moins d'aptitude physique, parce que c'était on évite le mec qui est plus costaud que nous et qui peut nous choper par le contact.
Alors,
physique.
J'ai une question.
C'était une façon justement d'esquiver, d'aller plus vite que le mec.
C'est juste sur la dimension raciale,
de façon, on va dire, un peu roublarde.
On va faire ça thème par thème, mais j'ai une première question pour Fred et Jérôme. Est-ce que dans votre formation, on vous a spécifiquement appris à dribbler?
Ouais. Bah moi je vais répondre déjà avant Fred. Oui.
Moi, quand je suis
arrivé à 13 ans à l'INF Clairefontaine, la priorité c'était de bien manier le ballon. Donc quand tu manies le ballon correctement, c'est plus facile de jouer au football. Donc
et après le dribble peut venir naturellement.
Mais le dribble il vient de là, et c'est pour ça que c'est difficile de ressortir que des dribbleurs, juste dribbleurs, parce que pour moi, la définition du dribble, c'est la définition d'un joueur de football.
Pour moi, c'est un accessoire. C'est un accessoire dans la palette du bon joueur.
Utile,
le dribble.
Et c'est utile au niveau de toute façon, tous les joueurs sont amenés à dribbler. À tous les postes.
À tous les postes.
Que ce soit parce que, exactement.
Si on considère que le dribble, c'est juste la faculté à éliminer dans un contre un.
Mais on peut
ou
considérer.
Normalement, si t'en as un deuxième à dribbler. Mais c'est la faculté à éliminer un adversaire.
C'est éliminer ton adversaire.
Avec le ballon, en gardant le ballon dans les pieds.
Un ou deux. Mais
on peut être la définition.
Et être décisif dans ce que tu veux faire. Parce que si tu dribbles pour que ça sert à rien.
Ah, ça c'est encore autre chose.
Ah, mais attendez,
c'est quand tu vas un peu plus loin, ça.
C'est pour ça que la définition du dribble, c'est compliqué, parce que si tu retiens vraiment les dribbleurs aujourd'hui, des dribbleurs, je peux t'en citer 20 000. 20 000, j'abuse, mais je peux t'en citer 3-4 par équipe. Aujourd'hui, t'as l'impression que les jeunes, quand ils jouent à des postes offensifs, et encore plus des postes de côté aujourd'hui, poste où j'ai évolué, donc je sais de quoi je parle, c'est ils prennent le ballon, ils vont dans la percussion à chaque fois.
Ils
donc,
sont arrivés en plus.
Ils vont faire des passes en jambes, ils vont faire des crochets, et vas-y, et 1, et 2, et 3, et puis à l'arrivée, ça donne pas grand-chose. Et donc, et là, on dit, waouh, lui, c'est un dribbleur. Mais pour moi, c'est pas ça le dribble, en fait.
Ouais,
le dribble, tu l'as bien. Les gens, quand ils sont choqués, quand tu sors des noms, là, tu nous as sorti, on peut dire Van Persie. Oh, putain, franchement, Van Persie. Est-ce que Van Persie était capable d'enchaîner des passements de jambes, des petits ponts, des grands ponts, des trucs? Oh, franchement, non.
Oui, il peut le faire sur quelques actions.
Mais il peut le faire. Ce qui lui a permis de marquer des buts aussi. Et moi, par exemple, tu vois, pour, je veux pas parler de moi à chaque fois, mais mon expérience montre que, en fait, j'étais pas dans la définition du dribble, du joueur dribbleur.
Mais tu dribblais pas, Jérôme. T'avais la faculté à te démarquer.
Oui, mais
sauf que, pour justement, un crochet.
Moi, j'étais pas. Pourtant, je l'ai appris. Comme disait Gilbert, je l'ai appris à 13 ans, 14 ans. Tous les matins, on avait le ballon. Les échauffements, c'était pas des tours de terrain. C'était avec le ballon, avec des plots. J'avais un Brésilien qui était Francisco Filho, et on devait enchaîner à la queue leu-leu un geste technique sur chaque plot. Et les autres suivaient. Donc le premier crochet. Alors, il y avait une façon de faire le crochet. Attention, c'était pas juste un crochet. Il fallait bien casser la cheville.
Je pense qu'en fait, c'est plus ça qui est dans le doc. C'est la mystique du dribble comme un geste. En fait, où le but n'est pas de dire que c'est ce qu'il y a de plus efficace ou que c'est ce qui marche le mieux. C'est juste l'action qui pourrait être en fait individualisée dans une photo où tu as le mec face à un autre mec, il le passe, il l'élimine et il a encore le ballon derrière. C'est pas le crochet pour le centre, c'est pas le crochet, j'élimine le mec et je passe la balle, c'est j'élimine le mec, j'ai encore le ballon derrière et je fais encore autre chose.
La question, Daniel, c'est comment tu l'élimines? Parce que je suis sûr que vous avez pas retenu.
C'est une sorte d'action à un contre.
Je suis sûr que vous avez pas retenu le 1 contre 1.
C'est la mystique
du. Le mec va s'en sortir juste avec une fin du regard, un crochet, une conduite de balle. Si. Tu vois, tu vas retenir surtout le 1 contre 1 avec le mec qui va faire 10 passes
en jambes. Non, parce que tu mets Pelé dans la feinte. La feinte, justement, la Coupe du Monde.
Le drip de Pelé face au gardien uruguayen dont j'arrive jamais à prononcer le nom.
Mazurkiewicz.
Évidemment qu'on va la remontrer parce qu'il y a une grosse partie sur les feintes de corps.
Le meilleur, c'était Ronaldo, le vrai, là-dessus. C'est le meilleur.
Le meilleur sur les fins de corps.
Sur les fins de corps, le Ronaldo quand il arrive. Il touche pas le ballon et Ronaldo, il arrive à mettre le mec sur le dessus.
Ronaldo, il avait une facilité d'enchaîner plusieurs gestes techniques sur des dribbles.
Mais c'est vrai que Ronaldo, en finale, face à la Lazio en 98 au Parc, le Lazio Inter, il arrive face au gardien, face à Marchegiani, et sans toucher le ballon, il fait trois feintes de corps, le gardien se couche.
Sur le cul.
Mais avant, la virgule qu'il fait sur le côté. C'est
et il y a aussi la virgule. Tout ça, on va le montrer.
C'est plus ça, en fait. C'est le geste technique isolé qui pourrait être sur une photo et qui fait qu'on se souvient du mec. Sans peut-être toujours souligner, parce que c'est un autre discours, est-ce que c'est efficace? Parce que par exemple, dans le dernier PSG Dijon,
Mbappé
fait deux dribbles. Il y a une sorte de clameur dans le stade, sauf que ça ne donne rien du tout, le ballon est perdu juste après. Mais il y a eu effectivement, c'est quoi? C'est double petit pont? Je crois qu'il fait au mec.
La virgule petit pont.
C'est plus le geste comme ça qui est retenu. C'est plus un doc d'esthète d'efficacité.
On va parler des individualités. On va revenir sur Ronaldinho et d'autres et tout. Mais il y a quand même deux trois grandes questions qu'il faut qu'on arrive à élucider ensemble. Déjà un. Est-ce que finalement, je vous pose cette première question, est-ce que finalement le dribble n'est pas finalement le truc de dernier recours qu'on ne devrait jamais faire au foot?
Non.
Parce que le foot, c'est un jeu de passe.
Mais pas du tout.
Mais je vous pose la question.
C'est un jeu de plein de choses. C'est pas qu'un jeu de passe. C'est un jeu de passe, un jeu de contact, un jeu de dribble, un jeu de.
En gros, est-ce que le dribble, c'est pas l'anti-collectif, finalement?
J'en ai parlé à Johan Gourcuff.
Non, pas du tout.
Lui, tu vois.
Gourcuff, c'est intéressant. Ou Suodo, par exemple, on aurait bien avoir leur avis là-dessus.
Voilà, parce que c'est ce que je lui ai dit. L'école nantaise, guardiolesque, si je puis dire, je lui ai dit à Gourcuff.
Oui, c'est le jeu de passe.
Qui a eu la gentillesse de nous répondre.
Et d'évitement.
Est-ce que le but parfait, ce serait pas un but sans dribble, que des passes, et à la fin, on la pousse au fond. Et pour certains puristes, il pourrait le définir comme ça.
Et il dit quoi, Gourcuff?
Lui, il me dit, il n'ose pas trop me le dire, si tu veux. Il me dit, oui, c'est, en substance,
Suodo,
ça serait
dit
plus
oui.
Parfait.
Mais c'est tellement rare. Mais... c'est tellement rare. Tu peux pas. Tu peux pas.
Mais c'est impossible aussi. C'est, à un moment donné.
Tu peux peut-être y arriver, mais c'est tellement rare. T'imagines. De déséquilibrer un bloc équipe, une équipe ouais. adverse, juste par juste des par passes. Passe. C'est pour ça que le drip sert à ça.
C'est rare, mais ça s'est vu. Et c'est vrai. Oui, que c'est, vu, mais on s'en souvient. Oui, mais le but est justement. Le but n'est pas de dire que c'est une généralité. Le but est de parler de ce qui est rare. Le but est de parler de ce qui est rare.
D'accord, mais le drip fait partie du pouvoir du joueur porteur du ballon pour déséquilibrer un joueur ou une équipe. Ouais. Donc tu te mets dans une position, c'est pour ça que le dribble, c'est si c'est faire des passements de jambes pour déséquilibrer, OK, pas de problème si ça marche. Juste le crochet, un bon contrôle orienté qui te permet d'éliminer, c'est comme un crochet, ouais. ça te permet d'ouvrir, c'est un dribble, mais d'ouvrir, de déséquilibrer le bloc adverse et là à travers la passe derrière, tu crées un autre déséquilibre et c'est ouais. ça qui te donne le but. Mais si c'est juste faire des passes, franchement, c'est arrivé, hein. Mmh. C'est arrivé à faire un enchaînement de passes et ouais. tout. Bah, t'as plein d'équipes, mais souvent ça part de l'intuition, le joueur qui décide de faire ça pour déséquilibrer un joueur ou une équipe. Et derrière, clac, il y a quelque chose qui se passe. Mais avant, c'est pas possible de repartir avec le gardien, de faire une passe, deux passes, trois passes, quatre passes, cinq passes, six passes, sept passes. Dans le même mouvement, il y a forcément un joueur au bout d'un moment qui va prendre un risque supplémentaire.
Bah c'est, c'est ce que plusieurs interlocuteurs me disent, c'est que même le Barça de Guardiola, qui était le qui représentait le ouais, jeu de passe parfait,
bien sûr.
Il y avait quand même toujours, au bout d'un déséquilibre collectif qui avait été créé, des conditions collectives, là le dribbleur pouvait s'exprimer suite à un décalage collectif, et on voyait bien Messi ou d'autres finir par profiter de ce collectif. En fait, c'est une interdépendance, c'est-à-dire que le dribbleur peut difficilement exister sans le collectif, même s'il y a des coups de génie, et à l'inverse, ce collectif ne peut que se nourrir.
Après, t'as le dribble, l'élimination par la vitesse ou par uniquement un geste qui fait que tu élimines le mec, mais il y a de toute façon toujours un moment où tu vas plus vite que ton défenseur que t'as éliminé. Non, mais il y a des natures différentes dans le dribble
de Guardiola, de mettre le ballon d'un côté pour renverser de l'autre pour que justement son ailier soit un contre un. Donc là, c'est forcément, il va dribbler pour aller dans la surface et mettre un bon ballon.
Et le plus dur après, c'est sur le terrain de mettre, tu as beau l'avoir répété, le maîtriser, le passement de jambe, le crochet, ce que tu veux, le crochet escaboté, ce que tu veux, c'est quand t'es en situation de match, en compétition, c'est de le mettre en avant, en pratique, parce
crochet escaboté.
Ouais, oui, c'est celui qui met derrière la jambe.
D'accord.
Voilà.
Et le contrôle orienté peut être un dribble.
Le contrôle orienté peut être un dribble. Il y aura une petite partie là-dessus. On part du but de Bergkamp. Le but de Bergkamp, c'est à la base, c'est juste un contrôle orienté.
Le fameux.
Ah ouais, ouais. Il le raconte d'ailleurs. Mm. Donc ça, c'est un bon moment du doc aussi. Bah, c'est un contrôle orienté. Et on va pas. Il y aura 50 nuances de dribble. Hein. Du passement de jambe inutile. Il y aura tout un débat aussi là-dessus sur l'efficacité.
Denilson qui dribble arrêté. Ouais, il pouvait éliminer dans une cabine téléphonique, le mec, il n'a pas fait carrière.
Denilson, il nous le raconte, il nous raconte toute sa carrière, le phénomène de foire qu'il est devenu via ses dribbles à la Coupe du Monde et son transfert. Vous vous rappelez, le genre le plus cher du monde, il arrive au Bétis. Il nous dit, moi, en fait, les gens n'attendaient qu'une chose de moi, c'était que je dribble, que je dribble, que je dribble. En fait, je me suis conditionné là-dessus, j'en ai perdu mon football.
Eh oui, c'est vrai, tu pars dans des
belles histoires.
Ouais, c'est pas étonnant.
Passement de jambe, celui dont je me souviens, enfin, qui est marquant sur les 20 dernières années, c'est Mancini contre Réveillère.
J'étais sûr.
Il est arrêté, il y en envoie 4 de suite et derrière il y a frappe.
C'est tellement une arme, mais c'est pour ça que même le passement de jambe, et c'est bien de mettre les joueurs comme ça dans les dribbles en avant, parce que le passement de jambe, il est pas facile. Un passement de jambe, ça va, mais enchaîner comme ça devant, c'est vraiment une force en fait, quand tu le maîtrises bien et que tu penses à le faire. Ouais. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui le font.
C'est dommage que vous m'avez pas mis. Je vous envoyer une petite vidéo.
Quand il l'a fait, il t'a
on est encore en montage.
Non, il a dribblé le prince William. Il a pas serré la main.
Un but contre Châteauroux où je fais deux passements de jambes comme ça, malgré ma grande taille.
Mais c'était rabé sur Rattala, en fait.
En fait, on a dit dans ce doc, non, Châteauroux, on rentre pas dans le.
Non, mais c'est marrant que tu dis ça parce que tu sais que nos amis du digital ont une super idée. C'est qu'il y a un hashtag, je crois que c'est hashtag dribbleur RMC, dribbleur au pluriel, où les gens justement peuvent envoyer sur Twitter leur dribble. Et à la fin, dans le générique de fin, on choisira les plus beaux dribbles.
Moi, je reviens maintenant à l'efficacité du jeu. C'est, voilà. Parce qu'il n'y a rien de pire.
Parce que toi, tu veux que ça soit efficace.
Il y a rien, voilà. Il y a rien de pire, et on va aller juste après la pub, qu'un dribbleur qui ne sert à rien et qu'un dribble inefficace. Il n'y a rien de pire.
Il y en a tellement,
donc, justement, réfléchissez ce que tu là-dessus. Dis,
oui.
On en parle dans quelques instants, juste après la pub. Point sur le basket, le score. Jérémy, entre l'Asvel et Valence.
Ouais, fin de match à suspense. Il reste 4 minutes 20 à jouer dans cette rencontre. 3 petits points d'avance seulement pour l'Asvel. 62-59.
C'est réglé.
C'est bouclé, là.
Il y en a eu jusqu'à 14 pour
Israël. Ils sont en train de gérer.
Stephen s'est pas fait cracher dessus quand même.
Non, pas Villeurbanne.
Ah non, pas Villeurbanne, c'est à Limoges.
Pardon. Allez, à tout de suite dans l'after pour continuer de débattre sur le dribble. Mohamed nous attend, il veut intervenir, il veut parler de Ronaldinho. Ce sera tout de suite avec vous au 32-7, bien sûr.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. Daniel Riello, Frédéric Piquion, Jérôme Roten, Nicolas Lansalo, donc pour le doc Dribbleur, qui est diffusé sur RMC Sport 1 le 26 mars prochain. On continue notre débat sur les dribbles. Alors, les noms tombent dans tous les sens. Vous n'avez même pas encore cité Waddle, vous n'avez même pas encore cité Zidane. On va y arriver, tranquille, messieurs, dames. J'aimerais d'abord qu'on accueille Dimax. Et oui, Dimax est là, au 32-16 avec nous, les supporters de Paris. Salut Dimax.
Salut, salut l'équipe.
Bonsoir.
Salut Jérôme. Salut Gilbert. Et salut.
Attends, quand on dit dribbleur, qu'est-ce qu'il dit en tête?
Bah, comme je disais avec Max, en ce moment, je dirais Riyad Mahrez, parce que dans les 30 mètres adverses, avec l'équipe vraiment en bloc bas, c'est vraiment une zone très compliquée de garder le ballon. Et lui, il a cette faculté à garder le ballon, à dribbler en bonne position. En plus, il y a Kai Walker qui monte toujours, donc il a cette possibilité de fin de pas, de rentrer sur son pied gauche et tout. Donc ouais, je dirais Mahrez.
Si je peux me permettre, Gilbert, on l'a rencontré, Riyad, et justement, j'avais calé un petit extrait, si vous voulez écouter.
On va l'écouter.
Le dribble un peu comme une drogue, c'est ce qu'il nous dit.
On écoute.
Moi, quand tu parles football, quand je suis sur le terrain, je suis obligé de dribbler. Après, il y a des matchs, je ne vais pas dribbler, peut-être c'est serré, mais même, je vais faire un truc. Un petit crochet, je suis obligé. Et des fois, je fais des matchs, je dribble pas trop et tout, je suis dégoûté. Même si j'ai marqué tout ça, je vais dire, mais vas-y, je l'ai même pas dribblé le mec, tout ça, tu vois. C'est trop important.
C'est ta belle arfa que t'as fait là.
Ouais,
c'est
le même.
C'est les mêmes. Non, mais pardon, mais attends, moi.
Et est-ce
moi,
qu'on peut dire que le dribble est quelque chose de très fort dans la culture nord-africaine, par exemple?
Ouais. En tant
est-ce
ça,
qu'on peut dire, que c'est élevé au rang de...
Attends, je réagis à ce qu'il y a Barès là.
C'est nul ce que tu dis.
Non.
Pourquoi ça t'énerve? Parce que pour toi, ça
parce que lui, en fait, le mec, il va sur un terrain.
Ouais.
Pour faire son petit truc à lui, en fait.
Mais on est toujours à la lisière.
Mais non, il dit pas ça. Non, il dit pas ça.
Le mec, il va tripler, il va dire mais j'ai pas fait mon dribble.
Comme il est. Mais il a un poste aujourd'hui, tu peux pas le nier. Il a un poste où t'es obligé d'être dans la percussion dans l'équipe de Manchester City. On parlait du jeu de passe. Oui, il y a un jeu de passe. Il y a des joueurs au milieu de terrain, c'est magnifique, les décalages qu'il peut recevoir. Mais après, qu'est-ce qu'on lui demande quand il y a une équipe qui est en face, qui est bien en place, Il faut bien la déséquilibrer.
Bah moi, si je suis supporter de Mahrez, bah je veux qu'il marque. Mahrez, je veux pas qu'il fasse 12 dribbles.
En fait, il faut le comprendre.
Ouais, mais c'est souvent quand il dribblera que...
Il faut le comprendre sur le fait que s'il dribble pas sur le match, pour lui, il a fait un mauvais match parce qu'il aura pas été dans ce
comme l'attaquant qui marque pas alors que l'équipe a gagné
pour son équipe.
Ouais, c'est ça.
C'est tout.
Franchement,
que tu prennes Sterling, que tu prennes Mahrez, ce sont les deux qui jouent sur les côtés et ils dribblent les deux.
De toute façon, c'est la vérité. C'est un sport collectif, mais ça a toujours existé. Dans le sport collectif, il y a des postes clés, il y a des postes.
Non, mais il y a des gens qui se kiffent là. Je le disais, tu étais d'accord avec moi.
Ouais.
Le dribble, je sais pas si on peut le limiter à
ne
ça, mais en tout cas, dans la culture nord-africaine, le dribble, c'est vachement, c'est quelque chose qui est fort, qu'on adore faire. C'est du foot. Le dribble, c'est du le dribble, c'est du foot de rue. Après tout,
Je suis pas trop d'accord avec toi, Daniel, parce que c'est vrai que certains Africains, on abuse, mais tu sens qu'ils maîtrisent.
Non, moi je dis Afrique du Nord, Marocain, Algérien, c'est plus là. On adore ça, c'est vraiment un truc qui est culturellement fort.
Mais c'est la vérité, parce que
c'est la vérité. Évidemment, c'est la vérité
là-dessus. Mais c'est la vérité de n'importe quel footballeur aujourd'hui. Peut-être que eux apprennent ça.
Je sais pas si un Allemand ou un Anglais kiffe autant le dribble.
En fait,
j'en suis pas sûr que ça fasse autant partie de sa culture. Je suis pas sûr que ça fasse partie autant de sa culture.
Non, mais ça doit faire partie de la formation. Alors moi, je prêche pour ma formation.
Ouais, c'est ça.
Oui,
le Brésilien, il me dribble.
La formation doit apprendre tout ça aujourd'hui, ou même en pré-formation. Aujourd'hui, si on voit autant.
On parle pas de la formation en pré-formation, là, on parle de football, de souvenirs, de beau.
T'as déjà été voir une pré-formation, voir en formation comment ils s'entraînent? T'as déjà vu les trucs,
j'ai vu, ouais.
Et tu trouves que tu vois qu'ils apprennent le dribble?
Ben non.
Bah voilà, donc le, dribble.
Moi, je trouve que c'est une erreur. Après, moi, je travaille pas.
Non, mais le dribble. Le dribble, c'est du football de rue à la base. Et il y a dans le dribble une dimension, Mahrez le ressent, beaucoup de joueurs le ressentent, qui est aussi dans l'élimination de l'adversaire, la façon dont tu l'élimines. Il y a une partie de chambrage aussi.
Mais le foot tout seul.
Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de.
Je suis supérieur à toi.
Voilà. Qui est un peu du one-to-one.
Mais
ça fait partie du foot.
C'est comme ça. Tous les gamins, c'est ça.
Mais c'est dans les 5-5 des squares.
Quand t'es gamin, tu prends un contre dans la rue avec un pote, tu dois forcément l'éliminer. Ouais, oui. Si tu mets un but avec un mec, le truc quand t'es gamin où tu joues à 3, tu mets le petit gros, tu le mets dans les buts, et toi avec ton pote, tu prends un ballon. Tu pars pas tout seul pour aller lui mettre un but. Ça compte moins que si t'as éliminé l'autre avant.
Le petit gros, tu fais comment?
Tu mets le moins fort. Tu mets le voisin qui fait vas-y, toi tu veux jouer, mais tu vas dans les buts.
Daniel, quand t'es passionné de football, quand t'es gamin, tu joues n'importe où, ok, et tu joues contre des potes, et tu joues avec des buts qui ressemblent pas à des buts. Du moins, tu mets des chasubles, et puis tu joues, et tu vas. Et forcément, là, t'es dans le dribble. Et le gamin qui est censé peut-être un jour réussir, il est déjà au-dessus du lot dans ces oppositions-là avec tes potes et tout ça. Moi, c'était mon cas. Ça a été le cas de Fred, certainement, quand tu joues avec tes potes. Bah, tu les
humilies.
Neymar, il fait quoi, Neymar? Neymar, il est pas dans l'humiliation de l'adversaire.
Mais c'est pas que lié.
Quand il dribble arrêté,
c'est pas
là.
Que lié à.
Oui, mais ça, c'est une dérive du dribble. Je sais pas en parler.
Absolument.
C'est pas que lié au.
Il y a la dérive.
S'il vous plaît, les uns après les autres.
C'est lié à.
Eh, les gars.
Que tu l'apprends.
Sinon, on comprend rien. Et puis là, c'est mon tour.
Il y a la dérive, effectivement.
La dérive du dribble. D'ailleurs, très symbolisée par ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où tu vois des dizaines de vidéos, à peu près tous les jours, Nicolas, t'as dû en voir plein, de mecs qui, en gros, postent le petit match amateur, même qui font futsal, foot à 5 et tout, où en fait, quand le type en humilie un autre par un geste incroyable, ils vont plutôt poster ça plutôt que le but. Ouais. Donc en fait, ce qui est plus important, c'est l'humiliation du mec d'en face que le but que t'as marqué.
Oui,
donc, c'est plus de faire un geste technique que de gagner un match.
Oui.
Alors, on peut considérer quand même que c'est...
C'est le geste gratuit, c'est la dérive du dribble.
Ça peut être considéré comme une dérive. Je fais juste une petite digression parce que c'est intéressant ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Autant ça peut amener cette dérive, autant leur absence, leur inexistence à l'époque a pu desservir certains dribbleurs. Par exemple, on est en train de le monter là, le doc. J'ai beaucoup travaillé les images aujourd'hui. On est parti sur les traces d'Yves Mario. Est-ce que vous vous souvenez d'Yves Mario?
Bien sûr, la roulette.
La roulette
la
de
roulette
Mario.
D'Yves Mario. T'as retrouvé des images de la roulette d'Yves Mario?
Ouais.
Oh.
Avec mes petites équipes.
Il en fait une dans le 7-2 contre Iéna.
Ah, t'es là parce que. Écoute, il manque la deuxième mi-temps.
Il part sur le côté, il fait une roulette comme ça.
Ouais, on en a retrouvé deux. Une en finale avec Bastia face au PSV.
Et on a montré. Je ne sais pas qu'il en a fait.
On l'a montré, on a vu Charles Orlandoucci, ouais. qui était dans les
équipes à l'époque. Une roulette, c'est costaud, une roulette en match. Hein.
Et on a parlé à des témoins qui ont connu Yves Mario. Et donc, justement, c'est ce qu'on nous disait. C'est que lui, il faisait des roulettes à tous les matchs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la roulette, pas la roulette à Zidane, c'est la roulette, ce qu'on appelle l'arc-en-ciel.
Avec le ballon dessus, là.
Je me souviens. C'est la sombrero, pas une roulette.
Moi, j'avais 8 ans et je voulais.
Non.
Le sombrero, c'est le ballon arrive, tu le fais passer au-dessus.
Lui, c'est
le truc avec le ballon derrière, avec le talon, tu fais monter.
Ce qu'a bien fait Braithwaite, ça présente. Ah non, il n'a pas réussi.
Il
l'a tenté deux fois, mais il l'a pris sous le pied. Ouais,
c'est mais ouais, c'est sûr.
Et moi, c'est en voyant lui. Après, je voulais tout le temps le faire.
La vérité.
Et à un moment, j'arrivais à la faire. J'étais super content parce que c'était en voyant Mario quand j'étais gamin que la roulette.
Tu sais que
ça sert à rien du tout pour le coup. Ça.
J'ai une anecdote sur
Neymar. Le fait régulièrement.
Mais attends,
Neymar, il en fait. Oui,
tu le fais. Tu dis ça sert à rien du tout. Non, je suis désolé. Ça peut servir. Le problème, c'est que
non, je disais moi, ça sert à rien dans la rue. À part essayer de me faire mal ou
quand le faire.
Mais
à quel moment là, on a rencontré Gian Minia aussi qu'on avait fait une face au Real.
J'ai une anecdote là-dessus. Nous, quand je te parlais des dribbles qu'on répétait avant les séances, en fin de séance, on avait le droit souvent, avec Francisco Filio, à cette fameuse roulette. On partait et il fallait qu'on réussisse la roulette. Tant que tu ne l'avais pas réussi, tu ne rentrais pas au vestiaire. Donc, et c'est compliqué hein, quand t'es jeune et tout.
Surtout quand le ballon n'est pas arrêté, c'est ce qu'ils expliquent. Le ballon était arrêté quand tu l'as.
Non, le ballon était en mouvement.
Ben, ça, c'est super
en mouvement,
chaud,
c'est là. Ouais. Et en fait, et si tu n'y arrivais pas, les mecs, ils restaient. Et le soir, tu les voyais dans les couloirs essayer de faire la roulette parce qu'il fallait y arriver pour le lendemain.
C'est bon, ça.
Et ouais.
Dimax, tu veux rajouter un truc?
Ouais, deux petites choses, Gilbert, s'il te plaît. Je vais être super rapide. Alors, Daniel, au début. Tu disais que c'était un mouvement, enfin, le tri c'est un truc social, et au final tu disais que c'est un truc culturel. Moi je pense que c'est plus un truc social parce que tu sais, avec les Argentins, les Brésiliens, enfin, du coup, c'est pas des Nord-Africains, mais enfin tu comprends, moi je pense que c'est plus un truc social. Ensuite, Roten, moi j'ai un peu joué en centre étant plus jeune, et tout ce que dit Roten, c'est super vrai. À l'époque, on avait beaucoup de 1 contre 1 en petit périmètre, c'était fréquent, des 2 contre 2, et donc ouais, je confirme, on nous apprend à dribbler en centre. Ensuite, Roten, il a un peu la réputation d'avoir un melon, mais pour le coup, je trouve très humble, parce que à l'époque, bon, maintenant, on peut mettre Matuidi, Sissoko sur les ailes, mais à l'époque, enfin, t'étais obligé d'être fort en 1 contre 1. C'était nécessaire. Et Roten, ce qu'il avait, c'est que à 30 mètres sur le côté, il était capable de centrer et de mettre une galette, du coup, entre le défenseur et le goal adverse. Et ça, s'il pouvait le faire, c'était grâce à sa capacité de dribble, parce que le défenseur, il pouvait pas intervenir. Et s'il intervenait, ben, il était encore en capacité de toucher le ballon une fois pour se repositionner. Et ensuite, on parle de Verratti.
Ça, c'est marrant, Jérôme, t'as pas coupé, là, pendant ce...
Non, c'était très bien, là.
Jérôme, il dribblait jamais.
Et le moment d'humilité, j'ai bien aimé aussi.
Mais Jérôme, il dribble pas.
Ben, si.
Mais non, Jérôme.
Il vient de te l'expliquer.
Mais non, arrête. Jérôme, tu dribblais jamais. On a joué l'un contre l'autre. Je t'ai vu jouer, Jérôme. Tu dribblais pas.
T'as souvent perdu.
Et toi, c'est pas grave, ça. Est-ce que tu dribblais un peu? Parce qu'on va parler des dribbles des neufs aussi.
Ouais,
qui sont des dribbles pour se mettre en position de frappe.
Jouais le Fred.
Dribble en position de frappe, oui.
Jouais contre Fred et roulait plus sur le ballon qui dribblait.
Des crochets, des contrôles orientés.
Ouais, je t'ai tapé avec Paris quand même. Avec Saint-Étienne surtout au parc.
Bon, vas-y.
Vas-y, c'est le nom, c'est pas grave.
Saint-Étienne au parc?
Ouais, Saint-Étienne au parc, j'ai mis un doublé.
Saint-Étienne au parc, et s'ils ont gagné plus de 3 fois dans leur histoire, ouais, c'est le bout du monde.
Ouais, et puis j'étais suspendu, donc.
Voilà. On va retrouver la feuille de match.
Ouais, retrouve-la.
Bref.
Ouais, je voulais juste parler d'un truc.
Oui, en remerciant D-Max au 32-16.
Si tu permets, parce que il y aura beaucoup d'images, beaucoup d'interviews, mais il y a du reportage. On a beaucoup voyagé, notamment Stéphane Darmani, qui est au Brésil pour nous, qui fait plein de super trucs. Et il est parti sur les traces de l'inventeur de l'élastico. Et je vous fais un petit quiz, je sais que vous aimez ça. D'après vous, qui a inventé l'élastico?
Moi, je te dis que c'est, comment c'est il s'appelle ce Brésilien qui avait une jambe plus longue que l'autre, là?
Alors, c'est pas Garrincha.
Pas
Garrincha. En fait, beaucoup pensent que c'est Rivelino, qui fait partie du Brésil 70, avec le quatuor que vous connaissez. Et moi, je le pensais aussi, quand j'ai commencé le doc. Et en fait, c'est pas Rivelino. On a aussi eu Rivelino. Franchement, on a eu plein de monde dans le doc. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Rivelino avec sa moustache, là, on l'a eu. Ouais. Bon, il a pris un peu de poids. Il nous explique que c'est pas lui qui a inventé, parce que lui, il l'a popularisé. Il faisait tout le temps des élasticos. C'était sa marque de fabrique. Mais en fait, c'est quand il était au Corinthians dans les années 60, un partenaire à lui.
C'est si vieux que ça, je pensais que c'était récent.
Ah ouais, c'est en 65, quelqu'un qui s'appelait Sergio Echigo, un Brésilien d'origine japonaise,
qui
voulait mixer le dribble
un
de Garrincha.
Un Brésilien d'origine japonaise en 65?
Tout à fait.
Et on est parti au Japon
pour rencontrer. Et ce mec t'explique qu'en fait, donc c'était un très bon dribbleur, il voulait mixer le dribble de Garrincha qui partait toujours sur l'extérieur et le dribble de Pelé où il partait vers l'intérieur. Et de ce truc-là, il a créé l'élastico. Il a montré à Rivelino à l'entraînement parce qu'il était super pote. Lui, il n'a pas fait carrière. Rivelino se l'est approprié, mais sans qu'il y ait de clash entre les deux. C'était un cadeau. Et c'est comme ça que l'élastico est né. Et on a rencontré les deux.
Belle histoire. Ouais. C'est fini au basket, Jérémy. Ouais,
avec la victoire de l'Asvel à l'instant.
Alors, on avait dit que c'était 65. Bouclé. Ça fait une heure qu'on dit que c'est fini et que c'est bouclé.
Belle gestion, en tout cas, dans les derniers instants pour du côté des.
Évidemment, ils ont fait exprès. Pour le suspense, ils ont laissé revenir un peu.
Juste un point sur le calendrier. Messieurs, l'Asvel qui ira au Real Madrid d'ici deux jours avant de recevoir Le Mans et se relancer en championnat dimanche ici même à l'Astrobal. L'Asvel qui va remonter un petit peu au classement dans cette Euroleague, mais évidemment ces espoirs de play-off qui sont amenuisés désormais depuis quelques semaines. L'Asvel qui le relance 12 même devant son public. Victoire 72-65 face à Valence ici à l'Astrobal.
2-3 messages sur Direct Studio, on reçoit plein sur les dribbles. Kamel qui me dit, mais c'est normal Gilbert qu'un beau dribble fasse le buzz sur le réseau plutôt qu'un but. C'est plus rare un vrai dribble qu'un but, dit-il au fond. J'ai Nesta qui me dit c'est le futsal qui a amélioré la technique de tous les dribbleurs. Les bons dribbleurs sont quasiment tous passés par le futsal. Donc
c'est
ça, on doit peut-être le retrouver.
On va en parler aussi.
Et ça veut dire que tu peux être un excellent dribbleur et ne pas faire carrière.
Ouais,
on a parlé de Denilson, Robinho.
Non mais tu connais Sean Frisler,
un excellent dribbleur.
Jawad Zahiri, est-ce que vous souvenez de Jawad Zahiri?
Bien sûr,
pareil, on l'a rencontré.
Mais parce qu'en fait, il y a un côté horripilant dans certains dribbleurs.
Il y en a qui se perdent dans le dribble.
Va faire tes 12 dribbles qui servent à rien.
C'est ça.
Et voilà. Mais quand tu étais là pour gagner des matchs.
C'est toute la difficulté de caractéristique d'un joueur, et quand tu maîtrises un geste, t'as envie de le faire plein de fois sur le terrain. Et c'est vrai que malheureusement pour certains, quand ils maîtrisent, je te dis, le passement de jambe, t'as l'impression qu'ils sont obligés de le faire 20 fois dans le match. Ouais. Et par moment, bah ouais, mais t'as beau le maîtriser, le passement de jambe, mais si le jeu amène pas ça, ça sert à rien de le faire, quoi. Tu vois, donc et
les freestylers, ils sont très forts aussi en dribble.
Là, mais ils sont capables de jouer au foot à 11.
On en revient à l'intelligence de jeu.
C'est ça le truc.
Non, mais on en revient à l'intelligence de jeu. C'est pour ça qu'il y a
savoir quand le faire
des choses, mais après il faut avoir l'intelligence de savoir quand le faire et à bon escient et pour ton équipe. Ça, c'est toute la difficulté.
Et puis j'ai encore deux messages là. Il y a Baxter qui lui dit il y a pas mal d'anciens dribbleurs type Ben Yedder qui ont su changer. Regardez Ben Yedder aujourd'hui, il ne dribble plus beaucoup en Ligue 1.
C'était un mec de football. Il a une aisance d'enchaînement, la rapidité qu'il a dans ses gestes, même si c'est pas que du dribble. Le futsal lui a servi là-dessus.
Et puis Moa qui me dit quand même, Daniel ressemble étrangement à Rudy Buquet.
C'est qu'il sort nulle part.
Vu leur réaction, ça n'a pas du tout d'info.
C'est pas bien.
Pourquoi t'es obligé de lire ce tweet?
Bah parce que c'est il est mort de rire, c'est même pas qui a Rudy Buquet. Surtout pas sa tête.
C'est un arbitre.
Non mais je sais que tu sais que c'est un arbitre.
Vous validez
sa tête, tu l'as pas sa tête.
Justement, moi, regardant, j'ai dit oui.
Tout ce qui est pour Daniel, je valide.
Moi je vais te focus, je valide pas. En regardant ta tête, je dis oui.
Comment il s'appelle?
Je regarde tout de suite.
Daniel est beaucoup plus classe.
C'est le même.
Là donc là, d'accord. Ah oui,
Sosie. En plus vous êtes même gabarit.
Ok, effectivement. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Ouais.
Allez, Arilès, c'est comme
toi,
avec nous.
C'est comme toi, Alain Delon, Jérôme.
De loin.
Isabelle Nanty, elle est son sosie. Non,
moi, j'ai mon sosie.
Isabelle Nanty, c'est
Alain Delon, mais ouais.
Allô?
Arilès, bonsoir.
Hello, salut, comment vous allez, l'équipe?
Ça va?
Super, et vous?
Ça va, ouais. On est avec Rudy.
Fred, il a une tête d'acteur hollywoodien. Fred, ouais.
Ça va? Alors attends, Arilès, on me dit qu'il faut qu'on fasse la pub. Bouge pas, on te reprend tout de suite.
Un acteur,
on parle du dribble avec toi.
Black Panther.
Allez, on continue. C'est un peu le fouillis, mais enfin, c'est plutôt pas mal notre débat ce soir sur le dribble. Donc on continue. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, Frédéric Piquion, Jérôme Rotten, Nicolas Lancelot. On parle des dribbleurs pendant quelques minutes encore. Tout à l'heure, on parlera du foot allemand avec Paulo Breitner, l'Angleterre avec Julien Laurence. Liverpool a encore perdu ce soir, les gars, en Coupe d'Angleterre, en Cup.
Ouais,
victoire de Chelsea 2-0. Face à Liverpool.
Fred Piquion.
Ouais, un film, Fred.
Ouais.
Ah, c'est vrai qu'il te ressemble, lui.
Allez, on reprend.
C'est la classe. Hein,
on m'a ramené la feuille de match du PSG Saint-Etienne où Fred met un doublé. T'avais aussi pris un jaune d'ailleurs. Hein.
Ouais, mais Fred avait gagné 2-0, non?
Non, il y a eu 2-2.
Ça va.
Il y a eu 2-2. Et Jérôme a dit gros mensonge qu'il ne jouait pas. Il était bel et bien titulaire.
Bah, j'ai fait les deux passes D, c'est normal.
Ouais, ça, on ne sait pas.
Tu as fait une passe D, toi.
Faut qu'on rejette.
Donc, t'as fait une passe D sur un pénalty.
J'ai obtenu un pénalty.
Et
donc, c'est une. Mais quel mytho je lui ai offert.
Comment il t'a. Il a dribblé. Petit pont roulé.
Attends, si t'obtiens le pénalty, c'est pas une passe D.
Parce que tu es sûr. C'est toi qui as fait.
Parce que normalement, je devais en tirer. Mais c'est sur moi la faute. J'ai dit tiens Pedro, fais-toi plaisir.
Bah, mais c'est toujours Pedro qui tirait les pénaux,
tu crois lui?
Bah alors toi franchement, alors là tu dis une connerie, mais incroyable. Au PSG, c'est Pedro toujours Pedro qui tirait les pénaux.
Bien sûr que oui.
Alors je vais te raconter une anecdote, c'est que t'as tu oublié parce que avec l'âge tu perds un peu la mémoire. Tu te rappelles pas que d'un PSG Toulouse quand Pedro il rate le pénalty en 2005, derrière il veut plus tirer les pénaltys. Tu te rappelles de ça parce qu'il se fait huer? Et voilà. Et qui les tirait parce que j'en ai tiré derrière.
Pedro s'est fait huer.
Non, mais en plus, il a raison, je m'en souviens de ça.
Mais oui, mais c'est la vérité.
Pedro, et pourquoi je l'ai tiré derrière les pénaltys, Pedro?
Alors après, peut-être qu'il s'est fait un peu dessus de le tirer à Marseille, peut-être qu'il s'est fait un peu dessus de le tirer à Lyon. Bon, t'es zéri, quand même.
Voilà. Bon, en tout cas, t'as pas gagné avec Saint-Etienne parce que.
Non, j'ai pas gagné au parc.
C'est même pas ce que j'ai dit. Même pas, je crois que les victoires de Saint-Etienne au parc, je sais même pas s'il y en a dans l'histoire. Je sais même pas s'il y en a, on arrive à 5, je crois même
je
pas.
Crois qu'il
on doit aller à 3.
Il y en a une. Bon, les gars, on arrive au bout.
7, je crois.
J'aimerais qu'on se détermine
après,
maintenant sur des noms.
Yang et c'est tout.
S'il vous plaît, Nicolas, je te pose la question en premier. Pour toi, qui est le plus grand dribbleur de l'histoire du football?
Ah, bah, c'est compliqué.
T'es dur. Non, bah, faut répondre.
Ah oui. Lance-toi.
Moi, j'en.
Bah, c'est Diego.
Garincha pour le délire. Mais c'est pas moi qui dis
et
c'est Zico. Je vais reprendre les mots de Zico dans le nom qui dit que c'est Garincha.
C'est pas Maradona?
Moi j'aurais dû choisir
le plus grand dribbleur de tous les temps.
Le plus grand dribbleur de l'histoire.
Maradona, il dribblait tout le temps, il éliminait tout le temps.
Ouais. Franchement, c'est difficile.
C'est dur de. Franchement, c'est dur.
Ouais, c'est compliqué, mais vraiment.
C'est dur de se.
Tu voulais dribbler.
Bon, on me cite Zidane sur.
Mais des années 2000 maintenant.
Le plus grand dribbleur actuel maintenant.
Actuel aujourd'hui, quel joueur
qui dribble le mieux ? Il y a débat. Spontanément, celui qui a la plus grande variété de dribbles, moi je pense que c'est Neymar. Ouais, mais celui le meilleur dans le sens efficacité, c'est peut-être Messi. Parce qu'il fait que des feintes de corps, des crochets, mais
c'est ça. Ouais. Ah ouais, après, dans l'image du dribble de l'élimination un contre un, oui, Neymar, il en fait beaucoup.
Aujourd'hui, Neymar, dans la vitesse d'exécution, l'enchaînement des dribbles, oui, je pense que. Et puis lui, il sait tout faire. C'est on parlait de la roulette. Franchement, il fait des trucs avec le ballon. Moi, je dis chapeau parce que si j'avais eu un quart de son talent là-dessus, j'en aurais fait un paquet.
Est-ce que le coup du crapaud est un dribble?
Harry Less, nous.
Quoi que Thomas Blanco, c'était un dribble. Le Mexicain Blanco qui coinçait le ballon entre les deux jambes et qui sautait après les joints avec.
On est en train de négocier Thomas Blanco.
On n'a plus le droit de faire ça.
On est en train de négocier.
Il avait dit oui, mais il ne veut plus.
Non, entre les pieds.
Entre les pieds.
Mais tu te souviens pas, il bloquait le ballon au niveau de ses chevilles, il sautait avec le ballon. Mais il le faisait souvent. Ce truc.
La première fois à Mexique-Corée, il l'a refait pendant la Coupe du Monde et il l'a refait en 2002.
Il fait trois fois.
On retrouve Ariès qui n'a pas pu passer tout à l'heure. Ariès.
Ouais, salut l'équipe, comment vous allez?
Ça va et toi, j'ai la parole.
Super. Déjà, je voulais vous remercier pour votre boulot. Vous faites du super boulot, donc merci à vous tous.
Merci Ari.
Merci.
De rien.
Top. Bah écoutez, moi je voulais réagir à ce que Daniel disait par rapport au dribble et justement l'Afrique du Nord. Moi j'ai grandi en Algérie. Et j'ai appris à jouer au foot en Algérie, à l'école, dans la rue et tout ça. Et c'est vrai que la plupart du temps, je préférais me prendre 5 buts plutôt qu'un petit pont, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui était fou chez nous, c'est que jusqu'à maintenant, on préfère voir Mahrez faire une virgule et un centre plutôt que mettre un but. Après, bon, j'avoue, si c'est en finale de la CAN, on préférera toujours...
Tu préfères le coup franc lucarne.
Ouais, le coup franc lucarne est mieux.
Ouais, le coup franc lucarne est toujours mieux. Mais je t'avouerai qu'aujourd'hui, un petit pont, un petit centre et un petit arc-en-ciel derrière tout ça...
Donc c'est l'éloge de l'individu contre le collectif, quoi, en fait. L'équipe, tu t'en fous, toi. Tu veux juste faire ton dribble.
Oh, Gilbert, t'es un peu rabat-joie, là.
Qui est très, très, très orienté vers le but. Nous, on est plus orienté vers l'art, vers l'image qui a tout. Donc tu vois, c'est vrai, ça, c'est une.
Non, je comprends, la beauté est inutile, mais c'est important comme concept. Moi, j'aime bien.
Ouais.
Mais tu veux dire, c'est une honte de prendre un petit pont. Par contre, c'est ton plaisir absolu d'en mettre un.
Ah mais tellement. Dis-toi, moi aujourd'hui, bon, j'ai pas le physique pour être technicien. Je fais 1m97, je fais 90 kilos, et pourtant, j'essaye toujours de mettre des dribbles, tu vois. Pourtant,
j'essaye des one to one, donc basket, tu vois.
Je comprends.
C'est bien de tenter. Fabrice Pancrate a essayé des dribbleurs.
tiens, regarde l'image de
Monsieur Jérôme. Merci Ariès, en tout cas. Merci à toi.
Fabrice.
On voit l'image sur RMC Sport News de Kaoutemoc Blanco qui fait le coup du crapaud.
C'est pas une question de pote.
Mais moi aussi, c'est mon pote. Mais il est adorable. On peut le chambrer quand même. On peut le chambrer. C'est vrai que s'il fait un dribble, il fait un claquage.
Sinon, les gars, une nouvelle fois,
c'est un mec adorable. C'est vrai que c'est un mec adorable.
Puisque Saint-Etienne a gagné à Paris en 2006 et en 2007. Hein.
Ah bon?
Eh oui.
Non.
Jérôme Thomas.
Pas deux années
et...
Non,
impossible. C'est pas
non, impossible.
Bah, c'est ce que vient de me dire Jérôme.
Fred n'était plus là. Hein.
En 2006-2007, la saison 2006-2007.
Quand Saint-Etienne a gagné, j'étais.
Sur la saison 2012-2013.
C'est exactement ce que j'ai dit avec Aubameyang.
Avec Aubameyang.
Ok, c'est deux victoires. Voilà. C'est ce que je te dis.
Ah oui, non, mais c'est.
Il y en a peut-être une autre qui traîne que j'ai pas en tête.
Celle où il a mis le retourné acrobatique là.
Il me semble que c'est
la victoire.
Non, ça,
il me semble que c'est la victoire au parc.
C'est 2004.
Quand il met le retourné.
2004-2005. Ouais, je me souviens, c'est juste devant ma tête.
N'importe quoi, on venait de monter en 2004-2005. Qu'est-ce que tu racontes?
Alors, c'est l'année après toi. C'est pareil.
Je te dis, c'est en 2006.
2006-2007.
Oui. Peut-être.
Ils sont pas mal, les deux, là.
Mais
je
en a joué.
Je te dis ça depuis tout à l'heure, tu me dis non, c'est
2004, vrai, mais attends, je me souviens, en plus il y avait faute.
Et il t'a ressorti.
Ils l'ont accordé ce but.
Voilà, et il t'a ressorti un 3-0 à Geoffroy Guichard. Là. Il y était le 3-0 à Geoffroy Guichard, tu l'as joué celui-là?
Non, j'étais suspendu.
Et il y avait qui dans ce 3-0
C'était très défensif notre équipe. Ouais, c'était la méthode Guy Lacombe.
Avec Guy Lacombe, t'avais que deux défenseurs.
Il y avait
au moins 6 joueurs défensifs.
Ah, 6, c'était
Fendouno, c'est un dribbleur.
Je pense qu'il y en avait au moins 7.
Vas-y, on ressort l'affiche.
Bah, je t'ai dit, Yepes, Rosenal, Pichot, Landrin,
Bernard Mendy,
Bami.
Mbami, Edouard Cissé.
Ah,
ça fait beaucoup.
Un mec qui fait une équipe avec 7-8 joueurs défensifs.
Il y avait des créateurs là.
Merci Nicolas. Donc, dribbleur sur AMC Sport 1. Et puis, je te reçois en replay derrière, évidemment.
Non, Pauletta, il a joué pas.
Dans quelques instants, l'Allemagne et l'Angleterre. Et le quiz, bien sûr. L'after revient tout de suite avec vous au 32-16. Paulo Breitner va notamment nous raconter tout ce qui s'est passé dans les tribunes ce week-end en Allemagne. Il y a beaucoup de choses à dire. C'était très intéressant. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.